Et nous voyons, en suivant étape par étape ce récit de notre histoire profonde, l'histoire des pères, Avot, et une rivalité de destruction, d'annulation. Je commencerai rapidement par les trois principaux patriarches, et vous verrez les deux autres colonnes apparaissent, ceux de la rivalité. Abraham, d'un côté il y a la lignée des antagonistes de destruction, c'est Nimrod. De l'autre côté, la lignée des antagonistes de rivalité, c'est Lot. Nimrod fonde les empires, Lot fonde deux peuplades qui substituent, qui réclament, pour dire, revendiquent l'identité d'Israël à leur manière. C'est Ammon et Moab. Ammon, dont l'histoire s'achève avec l'histoire de Ruth. Moab, dont l'histoire n'est pas encore achevée. Probablement, ça se passera avec la Jordanie. C'est mon père, c'est Moab, c'est Ruth, et Ammon, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit d'ailleurs.
Non, Ammon, c'est la Jordanie.
Ammon, oui. C'est la capitale de la Jordanie, comme vous savez, s'appelle Rabat Ammon. Okay. Hein? Ammon, mais en hébreu, c'est Rabat Ammon, la capitale de Ammon. Rabat, ça veut dire capitale. Et effectivement, dans le conflit dit du Moyen-Orient en français, c'est le conflit planétaire, il semble bien que si ça s'arrange vraiment, là où c'est sérieux, c'est avec la Jordanie. Alors, vous comprenez un peu ce que je veux dire. La frontière de la Jordanie étant avec l'Arabie Saoudite. Bien, je reviens en tout cas à cette énumération. À la deuxième étape, Isaac, d'un côté, la rivalité d'approximation qu'ils instaurent en prétention de Zed Ishmael, c'est clair, hein, qui fonde l'islam. De l'autre côté, la prétention de substitution dans l'annulation, c'est Abimelech qui dispute la terre d'Israël à Isaac. Dossier historique étant celui d'Ishmaël d'ailleurs, mais c'est au même niveau. Troisième étape, Jacob. Le rival, c'est Ésaü, qui lui fonde la chrétienté. Et de l'autre côté, la tentation d'aliénation, c'est Laban. Ceux qui ont lu la Gada de Pessah, je dis ça très rapidement. De Laban Bikesh, la raccord est à col. C'est la volonté de destruction totale. On est bien monté avec ces six faux frères-là. Et puis, à certaines époques, apparaît un septième personnage qui les récapitule, les six autres, c'est Amalek, où apparaît à la fois la volonté de remplacement et de destruction. Alors, on est en plein. Ces époques particulières, c'est les fins d'exil. À la fin de l'exil d'Égypte, Amalek survient. À la fin de l'exil du premier temple, Amalek survient, ça s'appelle Aman. Descendant de Amalek, okay, fils de Agag, de l'entretemps, eh c'est très clair que nous sommes devenus en plein une centaine d'années où la civilisation en général cherche à la fois à détruire et à se substituer à Israël, que ce soit à travers les Allemands, les Russes, nations arabes interposées, ceux qui se prétendent qu'ils sont les possesseurs de la terre et la vraie diaspora de Palestine, enfin vous voyez à qui je fais allusion. Et on y est en plein. Alors vous voyez que c'est à la fois parallèle et intimement intérieur à ce schéma de restauration de l'identité de l'homme antérieur. Et il semble bien que nous soyons presque à la fin de ces 6000 ans que ça dure. On est en 5746. Mais ça va vite. Et il faut avoir beaucoup de patience. Ça fait 6000 ans que ça dure. Vous me disiez, je crois que c'est à vous que j'avais cité cela. Un de mes maîtres m'a fait enseigner que pour apprendre la Torah, il fallait deux vertus, la science et la patience. Alors, c'est là que nous sommes arrivés. Bien, alors vous avez la parole jusqu'à une heure, c'est un quart d'heure, c'est toujours ça. Voilà, je crois qu'on peut arrêter l'enregistrement. Parce que c'est intérieur, vous voyez, une triade. Chesed, Roua, Tiferet, intérieur à cette triade, de la triade Nessar, Rod, Yesod, qui reprend d'ailleurs une triade beaucoup plus importante, à laquelle tu as fait allusion, mais ce n'est pas à son endroit, qui est Chochma, Bina, Da'at. J'avais oublié de vous dire au début d'ailleurs, lorsque j'ai parlé de la différence des deux procédés de connaissance, Bina, le discernement, Chochma, la sagesse, que lorsqu'on les possède les deux à la fois, apparaît l'unité de toutes ces valeurs qui s'appelle Da'at, la connaissance.
D'ailleurs, c'est le même nom qu'on dit Da, au début de notre texte.
Oui, c'est ce mot-là, Da. Je crois qu'à un des séminaires, je vous ai expliqué la différence de ces noms. Si vous n'avez pas en tête, je vais bien le reprendre. En vous donnant l'explication talmudique classique. C'est que on appelle Navon. Navon. Vous voulez écrire le mot Navon. Non. C'est mal, c'est mal. Dad. Alors je commence par Navon. Vous écrivez Navon. Dad, c'est la connaissance totale.
Navon.
Nun, le, rav, nun, Navon. Vous savez, il y a beaucoup de juifs originaires de Salonique qui s'appellent Navon. Hein? En particulier, Yitzhak Navon, qui est l'intelligent ministre de la culture en Israël, hein? Qui a été président de l'État. Vous avez entendu parler, j'espère.
Ouais.
C'est pas aussi loin que vers Saint-Gétoris, mais quand même. Et alors, le Navon, c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre d'un livre. On l'appelle Navon. Les Havin Davar, Mutor Davar. De comprendre une chose du dedans d'une autre. Navon. Et Chacham, sage, qui se réfère à Talmud Chacham, élève de Chacham, la sagesse, c'est celui qui est capable d'apprendre de quelqu'un d'autre. C'est une autre forme de connaissance. Beaucoup plus autre. Beaucoup plus autre d'ailleurs. Et Darat, c'est celui qui est capable de comprendre par soi-même ce qui est dit dans le livre ou dit par le maître. Alors là, c'est le niveau de Darat. C'est clair ? Ça ne veut pas dire comprendre par soi-même avant toute connaissance, mais après toute connaissance, de quoi s'agit-il ? On est seul à pouvoir le savoir. L'exemple que je donne depuis 50 ans, c'est la première fois que j'ai eu les pamplemousses. Et je ne sais plus encore si on dit un pamplemousse ou mille pamplemousses, vous allez me dire. Un. Alors, celui qui n'a pas mangé une fois dans sa vie un pamplemousse ne saura pas jamais ce que c'est que le goût du pamplemousse, même si le livre lui explique ce que c'est qu'un pamplemousse, et même si un marchand de pamplemousse lui parle du pamplemousse. Ça, c'est au niveau dernier, c'est d'art. Goûte. Et quand tu auras goûté, tu sauras de quoi il s'agit, mais il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on goûte. Bon, grosso modo, vous avez compris.
C'est
d'art, voilà, exactement. Ta'amu, uru, ito, vaché. C'est un verset de somme. Goûtez, et vous verrez que Dieu est bon. Il faut d'abord goûter. Et ne pas en faire du plaisir. Au goût d'un goût. Il faut faire ça avec goût.
Vous ajoutez un peu à votre question de la conversation tout à l'heure dans votre absence.
Oui.
Sur les valeurs respectives des différents modes de transmission. Écoute, c'est le plus important.
Oui.
La transmission de bouche à oreille, plutôt de bouche à bouche, tout ça. Mais il me trouve que dans nos moyens actuels de communication, nous avons les notes. Je donne mes notes à quelqu'un, c'est un signe, il est bien, il est mal, je me suis trompé, il était trompé. Il y a un moyen qui est encore plus, par exemple, je disais, c'est l'enregistrement, parce que là, c'est la vie qui fait votre parole qui est transmise.
Mais j'ai ajouté.
C'est parce que j'ai rencontré récemment une dame qui lui proposait une cassette et qui m'a dit non. Vous me raconterez, je ne veux pas de votre cassette. Ce que je comprends,
je crois qu'elle a raison.
Elle a raison. Mais est-ce que vous pouvez
justifier,
c'est ça que je
demande. Parce que, quand la connaissance passe par la parole, c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un. Et la connaissance ne passe que de quelqu'un à quelqu'un. Tandis que le livre, tout le reste, c'est une chose qui parle à quelqu'un, à la limite. Et M. Levinas a beaucoup parlé de la trace. Je ne sais pas si c'était dans le livre récent, il a cité les sources kabbalistes de cette notion, c'est le Réchidou, qu'on étudiera peut-être un des matins. Je pense qu'il l'a étudié surtout à travers l'œuvre du Rav Haïm Volodine, mais enfin, peu importe, il n'a pas l'habitude de citer les sources juives, puisqu'il parle à l'université surtout. C'est un problème. Et la connaissance à travers les livres, c'est une connaissance en traces, mais les traces, c'est pas. Les vieilles deviennent mortes. La véritable origine de cette notion de trace, c'est la trace de quelqu'un. M. Levinas l'a bien réintégré sur le visage de l'autre. Ce qui est un petit point de l'enseignement de la tradition à ce sujet. Parce que là aussi, il y a le risque, ça ne fait pas partie de M. Levinas lui-même, mais c'est un risque. de l'idolâtrie de l'autre en tant qu'autre. C'est la pire des idoles, voilà. Vous comprenez ce que je dis. Nous avons par exemple un message qui dit que lorsqu'on entend une transmission de sagesse d'un sage, alors la Torah est passée. Mais lorsqu'on essaye de la lire sur des traces noires sur papier blanc, c'est pas la Torah qui passe. Et vous voyez.
C'est lui qui parle à des.
Oui.
Il n'y a pas que ces cours en tant
que. Je dis bien. Non, je parle de la notion de trace.
Oui, hein.
Oui, non, c'est sûr. D'ailleurs, lorsque M. Levinas parle, c'est quelqu'un qui parle. Hein. Et nous sommes, d'une certaine manière, j'ai parlé de génération orpheline, pampeline, assez orphelin d'avoir à nous servir de livre. Et vous savez que, malheureusement, ce que dit le livre va dépendre du lecteur. C'est pourquoi je ne vous répéterai jamais assez. Lisez exactement ce qu'il y a écrit. N'interprétez pas avant d'interpréter. Il faut lire exactement ce qu'il y a écrit. Dès qu'on lit exactement ce qu'il y a écrit, on a compris l'essentiel. Vous avez compris ce que j'ai écrit. Mais vraiment exactement. Comme on disait, il y avait une image qui est apparue dans le vocabulaire israélien, peut-être journalistique, lorsque en 67 on a retrouvé le mur, alors qu'Israël était au pied du mur. Et c'était d'ailleurs le plus fait, on est au pied du mur. Mais je crois que la livre est un. La livre est un livre qu'il faut prendre à la lettre. C'est un livre qui ne peut pas se lire autrement qu'à la lettre. Vous connaissez. Et se lire, grosso modo, l'esprit de la vie, c'est tout le spiritisme possible et imaginable. C'est ça que je voulais indiquer. Et il n'en reste pas moins que la Torah connaît comme transmission de connaissance la vision, sans aucun doute, que les Grecs connaissaient aussi inversement la connaissance par l'écoute, bien qu'ils aient privilégié la vision. Mais sur un sens et un ordre. J'avais dit une fois, je ne sais plus si c'est un séminaire ici, que le Talmud a l'habitude d'introduire les enseignements par l'expression « tashma ». Ça veut dire « viens comprendre ». Comprendre quoi ? Ce que tu avais vu, viens le comprendre.
Et que le...
Pardon ? C'est les Chachamim, on dit. Oui, on introduit leur enseignement par cette expression. En général, le Talmud dit « tashma », viens comprendre. Le Zohar dit « tahazé », viens voir ce que tu as compris. Oui, c'est dialectique. Et il y a eu la révélation du Sinaï. On a vu, on a compris. Alors, 2000 ans de Talmud pour dire, viens comprendre ce que tu as vu. Mais tant que tu n'as pas compris, ne vois pas. Après que tu as compris, alors viens voir ce que tu as compris. Vous avez compris ? Alors, vous voyez.
Pour mettre
maintenant, une minute, encore une phrase que je répète, qui me semble très importante, c'est que la transmission de sagesse, c'est celle du Talmid Chacham, plus haut que le Navon, mais il faut être Navon pour devenir un Chacham, bien sûr, c'est interdit au contraire, parce que c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un. Or, comme tout le discours de la sagesse, c'est de parler de quelqu'un, s'il n'y a pas quelqu'un qui parle, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un. Je ne sais pas comment dire, mais c'est clair. Oui, quel est votre
question ?
Comment
faire ces moyens de communication entre le maître et l'élève, et la cassette.
C'est un ersatz qui me gêne. Un ersatz qui me gêne. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est inutilisable que pour ceux qui ont écouté le quelqu'un parler. Mais parce qu'une cassette retransmise, je vais vous en dire, ça redevient une chose morte. On ne sait pas qui parle. Et encore une fois, le sens des mots est différent, bien que les mêmes mots soient là. Je vous ai raconté une fois ce midrash de Rashi. Il faudrait une demi-heure pour vous l'expliquer, mais je vais le contracter. Et lorsque Joseph dit à ses frères, lorsqu'il s'est fait reconnaître d'eux, Enechem Rohot qui pime d'Aber Alechem, vos yeux voient que c'est ma bouche qui vous parle. Et le texte aurait dû porter, vous rappelez ça, le texte aurait dû porter, vos oreilles entendent que c'est ma bouche qui vous parle. Et alors il veut leur dire, c'est un enseignement que j'ai reçu du père du Rav Ashlag, du fils du Rav Ashlag dont vous avez le commentaire, à Bnei Brak. Vos yeux voient parce que c'est ma bouche qui vous parle. Il expliquait cela, je le dis vraiment en le citant plus que modestement, les 70 fois en différence, que très souvent il arrive qu'auprès d'un maître on comprend ce qu'on dit, dès qu'il n'est plus là on ne comprend plus. Vous avez remarqué ça? et elle c'est ce verset-là. Et la cassette est la même chose. C'est une sorte de note. Okay.
Oui, mais quand on dit les choses, on arrive à recomprendre certaines choses.
C'est ça.
Mais écoutez, je crois qu'en l'écoutant quatre fois,
d'accord,
sans votre présence, on comprend d'accord ce que vous aviez dit. Quand
c'est pourquoi j'ai dit utilisable que par ceux qui ont écouté le cours. C'est tout.
Mais par exemple,
je ne saurais pas vous expliquer le mécanisme qui se passe là, je ne sais pas. Mais on est obligé de constater que ça se passe comme ça.
Mais il y a une telle demande des gens qui ne peuvent venir et
qui connaissent. Il y a un verset qui dit « Car la Torah viendra de Sion ». C'est d'ailleurs, je vous l'avais dit. Comme vous le savez, j'ai déjà trois fois décidé de ne plus venir à Paris. Il n'y a pas moyen. Il y a des juifs à Paris qui font affaire. Comme disait Eli Cohen, un juif, c'est un juif. Il n'y en a pas d'autres. On peut en faire d'autres, mais il n'y en a pas d'autres.
Je peux vous dire que vos cartes dupliquées reviennent à Jérusalem. Je sais par quel circuit, par un tas de jeunes qui se les repassent et qui retournent chez vous.
Oui.
Donc c'est pas perdu.
Possible, mais tout ça c'est des affaires. Bien. Alors je vous dis, à Paris je suis plus disponible. L'âge, la santé, l'air de Paris, tout ça. À Jérusalem, il y a beaucoup plus de temps, beaucoup plus de possibilités. C'est un autre temps, un autre espace. Et je préfère, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui enseignent à Jérusalem, que les juifs viennent écouter à Jérusalem, c'est beaucoup plus efficace. Tant pis que rien ne remplace la Torah avec Israël, ça, sans problème. Et on ne vit pas dans la même atmosphère, les choses sont autres. Et ça, vous le savez bien. Et je ne sais pas comment dire, au lieu de passer son tourisme à Eilat, pourquoi pas à Jérusalem? Et vous voulez qu'on aille aussi à Eilat. C'est où ça? C'est loin. Ils y sont juifs. On lui a répondu, loin d'où? Et on arrête là.
Est-ce que quelqu'un peut connaître?
Oui.
Est-ce que pour lui la cassette est valable?
Ça dépend à quel âge il a connu. Écoutez, à partir du moment où la permission a été donnée, débrouillez-vous, mais vous me demandez mon avis, je vous dis, c'est pas souhaitable. Voilà, alors on se revoit lundi, après un Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.